Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et rebonjour à tous et à toutes. Et oui, on a pris un peu d'avance sur le retour parce qu'on voulait apporter un petit sujet, prendre le temps d'en discuter. Et ça sera du coup avec Monsieur Cyrine qui va nous parler et nous faire un retour sur la crise d'octobre. Monsieur Cyrine, l'antenne est à vous.
Si, si, on entend.
On t'entend, je te promets qu'on t'entend. Tiens, je
augmente ton son. Voilà. Parfait, parfait, excellent. Donc, je vais vous parler de la crise d'octobre. On peut penser à octobre comme étant un mois ici qui a été connu pour, comme étant le mois rose, dont Annelle nous a fait la présentation la semaine passée, pour le mois sur le cancer du sein chez la femme. Ici, un mois qu'on peut penser au retour des équipes de sport. Mais au Québec, octobre, bien, c'est un mois sombre. Puisque dans les années 1970, bien, la fameuse crise d'octobre qui a été déclenchée par le Front de libération du Québec, ou plutôt FLQ, comme on le dit par son acronyme. Puis le Québec va tomber dans une période de crise pendant une courte période, soit octobre jusqu'à à la fin en mi-novembre. Puis la crise va débuter lorsque les membres les plus radicaux du Front de libération du Québec vont kidnapper d'abord James Cross, un anglo dans le milieu plutôt, je dirais, du domaine du commerce, puis le ministre du Travail, Pierre Laporte, que lui va finalement décéder, puis c'est pour ça qu'on peut appeler ça vraiment une crise. Mais d'abord, le Front de libération du Québec, c'est un mouvement qui a été fondé en 1963, par des Montréalais, donc à Montréal, puis la branche la plus radicale de libération va se dissocier, va se scinder en 1969.
Après, c'était pas aussi un mouvement, tu vois, qui faisait rebond, tu vois, sur l'anticolonialisme qu'il y avait en Algérie, tu vois, à Cuba aussi. Parce que moi, je pense que c'est un événement qui a eu beaucoup de rebond avec la guerre d'Algérie, tu vois. Je pense qu'il y a une grosse influence. Je pense même que ça... Bon, après, je vais pas dire des grands mots comme exemple, mais non, tu vois, genre... Mais je pense que, ouais, c'est un rebond de base du contexte de la guerre d'Algérie.
Exactement, puis pour remettre la création du mouvement plutôt en contexte, c'est, les membres vont dire que c'est... Ils vont fonder leurs revendications sur l'indépendance du Québec, mais vraiment d'une façon unilatérale, donc sans l'accord du gouvernement fédéral, puis par rapport au mouvement des colonisateurs en Afrique, plus précisément en Algérie. On peut aussi penser, pardon, à cette époque qu'au Québec vient de traverser la période de la Grande Noirceur sous Duplessis de 44 à 59. Donc le gouvernement était extrêmement corrompu, les postes étaient occupés pendant des très longues années. Duplessis meurt en 59. Gouvernement qui a été élu pendant un an. Ensuite, c'est Johnson, père Daniel, qui rentre. Puis lors de la crise, c'est le premier ministre Robert Bourassa qui est là, puis il va se faire traiter par Justin Trudeau de mangeur de hot dog, puis pour son attitude plutôt laxiste et paresseuse par rapport à la gestion de la crise, puisque...
Parce que ouais, il y a eu un refus catégorique de sa part pour le paiement...
Exact.
Paiement de la caution pour l'otage et le passage de l'Algérie au Cuba.
Exact. Ouais. Si, puis c'est parce que le Front de libération du Québec, le FLQ et ses membres s'en prenaient d'abord à des boîtes aux lettres, étant donné que la poste, ben le courrier, c'était une discipline par le fédéral, puis c'était aussi vraiment dans la symbolique. Donc, il y allait aussi dans les quartiers anglophones, puisque à cette époque-là, qu'est-ce qui va qualifier le Québécois dans son identité, ça va être son appartenance à la langue française. Avant, c'était... Il va être attaché au clergé catholique. On se dissocie de ça lors de la période de la Révolution tranquille. Donc, le français devient extrêmement important pour l'identité québécoise, puis souverainiste. Souverainisme est plutôt radical à cette époque-là, parce qu'ensuite va venir des mouvements souverainistes plus doux. Aussi le Parti québécois. Donc, avec des mouvements plutôt comme l'étapisme, qui a été mentionné lors du premier référendum de 1980. La province de Québec, en fait, on propose à la province de Québec et sa population un référendum en deux étapes. Donc, un référendum pour négocier avec le Canada. Donc, si le référendum passe à plus de 50%, on peut entamer des démarches de négociation. Mais je trouve que c'était important aussi de faire un retour à cette crise-là, parce que quantitativement parlant, ça a été... Il y a quand même eu 6 morts au cours de cette période-là.
Ouais.
Puis ça montre aussi une érosion encore, puis un manque de confiance envers la démocratie, puis le système, de surtout d'un point de vue par rapport à tout le temps le fédéral, le clash aussi.
Je vois que Canel veut réagir aussi un peu sur ça. Donne-nous ton avis.
Ouais, mais je me suis un peu informée. Mais ce que j'ai vu, c'est que l'utilisation de la loi sur la mesure de guerre pendant crise a comme porté plusieurs débats, dans le sens où quand le premier ministre du fédéral a envoyé carrément les militaires pour pouvoir mettre de l'ordre, c'est comme les gens étaient là comme mais nos droits, et ça a un peu porté des débats sur ça.
Sur tout ce qui va toucher aux droits civils, parce que l'intervention du cabinet, l'action du cabinet québécois, fédéral sur la mesure de la guerre, elle a beaucoup été critiquée, elle a été trouvée très exagérée en vue du contexte. Donc moi après je comprends, tu vois, dans le contexte de la situation, après je pense que c'est toujours un principe de mesure et contre-mesure. On a une prise d'otage avec des personnalités politiques très importantes, dont une qui est morte, donc... C'est sûr que pour qu'une image plus à l'international, ça demande une action forte. Mais est-ce que réellement, tu vois, ça doit imposer à ce point, on va dire, pas une discipline, mais ça doit imposer à ce point une telle réaction envers sa population? Ça, c'est la question à se poser, tu vois, sur cette crise. Parce que ça vient même au débat du jour, tu vois. Genre.
C'est vrai que la loi sur les mesures de guerre qui a été adoptée en 1970... à cause de la crise. Préalablement, dans l'histoire, c'était seulement arrivé lors des deux autres guerres. Donc, on voit que c'est un événement qui a eu une forte importance sur toute l'orchestration de garder le bien commun puis l'équilibre au sein individuel, mais aussi au sein des idéologies, parce que on aurait... Peut-être que les deux gouvernements ici, en fait, auraient eu peur que d'autres groupes violents émergent de cet événement-là. Puis finalement, les membres ont été... la majorité ont été arrêtés. Il y en a aussi qui sont partis vers Cuba, étant donné que c'était un exil, puis une terre d'accueil, parce qu'eux se proclamaient comme des socialistes puis des grands revendicateurs de la liberté.
Sûr. Après, on peut faire un rebond sur ça, tu vois. En vrai, c'est à se demander dans les grandes lignes, tu vois, genre, à quel moment, tu vois, on peut dire qu'un gouvernement peut imposer, tu vois, sa vision de la sécurité auprès de sa population. Moi, je citerais comme exemple, tu vois, par exemple, les démarches avec le FBI, quand on sait qu'il y a beaucoup de surveillance audiovisuelle, que ce soit avec nos appareils informatiques ou autres. À quel moment, en fait, la liberté personnelle, individuelle, au sein de la société... peut être réduit au détriment de la sécurité, peut être réduit à quasi rien pour promouvoir la sécurité nationale.
J'irais même plus loin, c'est à quel prix on est prêt à sacrifier nos libertés individuelles pour garder cet équilibre, en fait.
C'est ça.
Je pense que c'est une question, en fait, que, enfin, même nous, en France, on se la pose à l'heure actuelle.
Ouais.
Les pays en guerre se la poseront le plus tôt possible, j'espère. C'est un petit peu, j'ai l'impression, le but du jeu de nos démocraties, c'est de choisir, de faire les choix qui vont nous permettre de définir quelles seront les limites. Et on parlait des héritages en termes de loi tout à l'heure, c'est un petit peu l'idée, en fait. Ou du coup, jusqu'à quel prix on est capable de payer pour être dans un pays libre et sûr et en équilibre et qui fait le choix d'aller vers l'avant. Et on se ferme des portes ou on s'en ouvre d'autres. Ça relève de l'esthétique et pour moi, de la philosophie, plus de la philosophie et de l'éthique, entre guillemets.
Pas trop.
Vous pensez pas. C'est vrai.
Je trouve que c'est plus politique. Après, en général, tu vois, dans ce genre de sujet politique, désolé de te dire ça, Naël. Moi, je débranche mon esprit, tu vois. Genre, c'est vraiment. Faut partir sur du rationnel et du logique. Donc, moi, j'entends bien que, tu vois, en tant que gouvernement, t'as une certaine sécurité à apporter de tes concitoyens. Mais est-ce que forcément on doit aboutir à la fin à une full technocratie où à la fin on voit plus l'humain, on voit comme une menace potentielle, comme un point de mort, comme une data, tu vois, c'est ça la question. Est-ce que pour la sécurité, on devrait autoriser à ce point un contrôle ? Ça, c'est pour moi non, parce que je pense qu'aussi il y a toujours un avis à prendre auprès de la population, que ce soit par référendum ou par des questions ouvertes. Mais je pense que en ce moment c'est pas trop le cas en France, mais en général, même je pense à l'étranger, on prend plus à ce point le temps de l'avis, et même les populations en posent plus trop leur avis. Donc forcément les gouvernements sont dans une situation où ils veulent mettre en place des systèmes de sécurité très complexes, très évolués, mais ils ne prennent plus en considération, parce que notamment le peuple et les citoyens ne veulent plus imposer aussi la vision des choses. Ils ont l'impression d'être soumis à ça, en fait. C'est, je sais pas, genre enfin, je te prends le pour les cas de figure comme le confinement, on a vu que ça n'a pas apporté ses fruits, tu vois, parce qu'à la fin, que le gouvernement le veuille ou non, ils peuvent être sévères comme ils veulent, il y aura toujours des gens qui vont faire des conneries, tu vois. Genre, c'est ça le truc.
Mais c'est pas tout le monde qui a fait des conneries.
Pour mais j'ai pas dit ça, tu vois.
Mais pour revenir, pour te répondre, Ryan, tu sais, ouais. Moi, je vais un peu jouer l'avocat du diable dans le sens où...
Non, mais tu peux.
Si nous, on est de l'autre côté et qu'on était des dirigeants, peut-être qu'après, on se retrouve vraiment au bas de certaines portes qui nous obligent forcément à sortir l'armée, des fois. Mais on ne sait pas ce que Pierre-Elliott Trudeau, à l'époque, il était face à quoi aussi. Il faudrait qu'on voit un peu... les choses de cette manière-là, et peut-être qu'on va essayer de comprendre. Après, je comprends que les libertés démocratiques et la liberté du peuple, c'est vraiment important, mais à quel prix est-ce qu'on va permettre le peuple de pouvoir donner son avis sans réellement voir la vision de tout le monde, pour tout le monde?
Ouais, non, mais ça, je suis d'accord.
Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. Et puis je comprends un peu Pierre-Elliott Trudeau. Je comprends aussi ceux qui étaient comme « Ah, mais ma liberté est comme atteinte et tout. »
En fait, je vais faire une rectification dans ce que j'ai dit, parce que tu m'ouvres un peu les yeux sur ça. Moi, je pense que quand une situation d'urgence impose une certaine rigueur politique, tu vois, je suis d'accord avec ça, parce que qu'on le veuille ou non, on vit en société, on est obligé de limiter notre liberté à celle des autres, pour leur sécurité. Mais maintenir, tu vois, ces lois hors système d'urgence, je pense que c'est de l'abus. Même au-delà de ça, tu vois, c'est vraiment, là, ça devient plus vouloir un contrôle.
Effectivement.
Tu vois, et malheureusement, tu vois, on sait qu'actuellement, c'est le cas, tu vois, genre, y a pas mal de choses qui présentent ça, comme je te dirais... Je trouve que la frontière, en fait, entre situation d'urgence et risque potentiel pour un État, elle est très légère.
Okay.
Je pourrais dire, je reviens avec l'exemple des systèmes de sécurité, tu vois, pour tout ce qui est utilisation sous écoute et autres. C'est très utilisé très régulièrement, sur les réseaux, tu vois, même, parce qu'il y a une vision de risque potentiel. Mais après, est-ce que toi, t'acceptes en soi de te dire que dans une situation qui n'incombe pas forcément une urgence, mais plutôt une prévention, on doit quand même délimiter tes libertés et ta vie privée, tu vois. Parce que si c'est comme ça, tu vois, moi, je suis un gouvernement, j'ai pas envie de prendre de risques, je mets tout le monde sur écoute, je suis tout le monde, je traque tout le monde, tu vois. Après, est-ce que ça, t'es d'accord sur ça, tu vois? C'est ça la question.
Non, mais là, c'est de la paranoïa. Mais après, vu sur cet angle, t'as complètement raison. Parce que je sais qu'on nous écoute permanemment,
ouais.
Mais écoute, tant que ça nous fait pas du mal et qu'on vit tous les jours et que ça peut permettre à la police de retrouver mon kidnappeur, ben je préfère voir les choses du bon côté là,
okay.
Que de rester là de me dire ah je suis perpétuellement en écoute. Ben écoute,
est-ce que vous avez des avis dans la table vis-à-vis de ça là? Parce que là, on a deux opinions là. Donc vas-y.
Je pense que... Alors là, on parle d'un sujet qui est ultra intéressant, qui est la liberté individuelle et notre rapport à la vie privée, entre guillemets. Je pense que c'est quelque chose qui...
Dans le cadre d'une situation d'urgence.
Le cadre de cette situation d'urgence, il y a aussi, t'en parlais tout à l'heure avec les violences, notre rapport à notre corps, en fait. Et jusqu'à où on a le droit de se protéger ou de se défendre, ou voilà, d'attaquer... Voilà, vous connaissez mieux que moi, en tout cas, ces questions-là, vous avez travaillé dessus plus que moi.
Non.
moi, en tant que néophyte, je me dis que c'est, Je me sens dépassé par tout ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est,
ouais.
C'est, en fait, je veux défendre...
Il y a tellement d'infos que ça... Mais c'est ça, tu n'arrives plus à suivre le truc. Quoi.
Exactement. Mais non, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le point de vue historique où, en fait, on a déjà vécu ces choses qui ont été d'une violence inouïe et qui ont façonné un imaginaire collectif. Okay. On peut pas le nier.
Tu veux dire quoi par imaginaire collectif?
Bah, ça veut dire que c'est quelque chose qui a laissé un héritage dans nos lois, c'est quelque chose qui a laissé un héritage dans nos esprits. Mmh. Et de l'autre côté, et à l'échelle internationale. Et de l'autre côté, je me dis, mais en fait, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire quelque chose de, où en fait, on gagne en liberté, on gagne en capacité. À l'échelle individuelle, on peut avoir de nouveaux droits et construire de nouvelles choses ensemble. Sauf que, encore une fois, il y a des dérives, il y en a de partout. Je me sens, ouais, encore une fois, le cadre de la société, il est là, il va être amené à évoluer, il va y avoir de nouvelles jurisprudences, il va y avoir de nouvelles lois, il va y avoir de nouvelles... Moi, comme tu le dis, je préfère voir les choses du bon côté et me dire, ça va me permettre peut-être de perdre quelques libertés individuelles, mais pour le collectif, gagner sur le long terme, je sais pas. Est-ce que vous avez des avis, vous, les auditeurs?
Vas-y, Sarah, t'as quelque chose à rebondir sur ça ou pas?
J'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. Je le voyais vraiment dans une mesure à court terme, soit crise d'octobre. Peut-être même pendant la pandémie, ça avait été extrêmement discuté, les confinements et tout. Mais c'est ça, je vous dirais que si c'est pour le bien collectif, puis lorsqu'on sent le collectif en 70, c'était le bien de la nation canadienne, puis qu'il y a un dérapage, puis... un peu la menace du bon exemple de « Ah, l'Algérie, ont réussi à obtenir leur indépendance. On prenne nous aussi. » Puis après ça, ça aurait peut-être été les provinces maritimes. « Ah, nous autres aussi, on est vraiment sympa comme ça. » Puis
En vrai, en soi, tu vois, genre après, c'est un autre sujet sur l'Algérie. Ouais. Mais après, moi, si je ferais une parenthèse, il faut juste comprendre une chose. L'Algérie, ça s'est fait aussi parce qu'il y avait une imposition, il y avait un déséquilibre de droit entre le peuple algérien et les peuples colonisateurs qui allaient se mettre en place. Comment dire que quand t'es né dans le pays, on te dit ça sera plus, t'auras plus le droit principal sur le territoire ou même sur tes terres, ça sera quelqu'un d'autre. Alors que c'est toi qui as bâti ça, tu vois, là sur ton front, là, c'est autre chose. Non, vraiment, c'est autre chose. Et je pense que c'est surtout cette envie de se détacher plutôt des instances et des grandes dominances de cette époque, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont abouti à ça, tu vois. Sur ce, le problème de la radio, c'est que tout est court. Donc on vous laisse avec une petite pause et on se retrouve juste après.